Ce matin, j'ai envie de réfléchir avec vous autour d'un thème qui est hyper bateau en fait, mais qu'on va essayer d'éclairer autour par un prisme un petit peu différent. On va parler de péché. D'après vous, quelle est la différence entre le péché et la morale ? C'est hautement philosophique, mais pas que. Très souvent, on a tendance à confondre les deux. On est dans une culture judéo-chrétienne où finalement la religion et le péché, la peur du péché, a été utilisée presque comme un moyen d'éducation et comme un moyen de fédérer la société. Allez, vous êtes des parents. À un moment donné, moi, très souvent, j'ai entendu des parents dire « Hey, si jamais tu n'es pas sage, le bon Dieu, il va te punir. » Ça vous est arrivé de l'entendre ? Ça vous est arrivé de le dire ? Ça vous est arrivé de le penser ? Donc, on se sert finalement du péché comme d'un moyen d'éduquer. C'est-à-dire qu'on transpose la notion de péché, qui est une notion qui est hyper spirituelle, à une notion de morale, qui est finalement quelque chose qui est un petit peu à géométrie variable. Et ce matin, j'aimerais qu'on réfléchisse un petit peu à ce que c'est réellement que le péché. Et qu'on puisse ensuite comprendre quels sont ces mécanismes de manière à finalement ne plus tomber sous une saleté qui est encore plus dangereuse que le péché, qui s'appelle la culpabilité. Et ça, c'est essentiel dans la vie chrétienne. Parce qu'on passe tellement de temps, parfois, à mal comprendre ce que c'est que le péché, qu'on en oublie que Jésus l'a réglé, et que nous avons un autre ennemi à gérer qui s'appelle la culpabilité. Et pour introduire cette réflexion, j'aimerais qu'on se replonge un petit peu dans le jardin d'Éden. Vous savez, à cette époque où Adam et Ève étaient tranquilles, ils avaient juste à jardiner, à s'occuper du jardin, à le garder, et ils pouvaient jouir de tous les fruits, de toutes les richesses que Dieu avait mis dans le jardin, sauf d'un arbre, et des fruits d'un arbre qui s'appelait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et là, à un moment donné, le serpent, qui était un animal des champs, donc il n'avait rien à faire dans le jardin, donc ça veut dire que Adam et Ève avaient bugué, puisque eh bien, le serpent était rentré, le serpent va dire la chose suivante, va dire « Eh, si jamais vous mangez de ce fruit, alors vous serez comme Dieu. » Et là, on se rend compte, et on connaît la suite, et on va la voir ensuite, on se rend compte que le péché prend sa source dans une erreur de positionnement. Il y a Dieu qui est là, et il y a l'homme qui est en dessous. Qu'on le veuille ou non, il y a une hiérarchie et il y a un principe d'autorité. Moi, je suis un bipède et Dieu est Dieu. Moi, je suis mortel et eh bien, Dieu, lui, est immortel, même si Adam et Ève n'étaient pas encore touchés par ce fléau. Et donc, il y a cette notion de positionnement. Et puis, on connaît la suite. Adam et Ève vont faire un conseil de famille. Ils vont s'asseoir. Et je pense que la décision va être longue à prendre. Quand on lit le texte, on a l'impression que c'est instantané, mais moi j'imagine la scène comme « Tu crois qu'on devrait y aller ?»« Non, 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 on n'y va pas !» Puis il y a l'autre qui revient quelques jours après, dit, ah, quand même, il est vachement appétissant ce truc-là. Tu sais, les bêtises, Clovis, c'est spontané ou parfois tu les mûris dans ta tête ?» tu les mûris, hein. Ouais, on est bien d'accord. Hein. Johan, des bêtises tu, hein. Non, t'en fais pas, pardon. Élodie, les bêtises. Ah, d'accord, ok. Et donc, il y a eu ce conseil de famille, et puis à un moment donné, patatrac, bon allez, on y va, de toute façon, qu'est-ce qu'on risque ? Et puis là, Adam et Ève, tout d'un coup, découvrent qu'ils sont nus, et ils vont se planquer. Et dans Genèse, au chapitre 3, au verset 9, on a finalement le fil conducteur qui va nous intéresser un petit peu aujourd'hui. On a Dieu qui va s'adresser à Adam et qui va lui dire, « Hé, Adam, où es-tu ? Où es-tu ?» Et ce verset, moi, il m'a fait tilt cette semaine quand je l'ai relu. Je me dis, mais en fait, Dieu, il ne dit pas à Adam, « Qu'est-ce que tu as fait ?» Mais il dit, « Où es-tu ?» Nous, dans notre mindset, quand les gamins font des bêtises, on met l'emphase sur la bêtise. « Mais qu'est-ce que t'as fait? T'as rien compris, Clovis, t'as pas encore fait tes devoirs. Et c'est pour ça que tu as eu... c'est des notes ou alors c'est des couleurs chez toi? Ouais, c'est des couleurs. Tu as eu un rouge encore en maths. Ah ben voilà, tout ça parce que t'as pas révisé. Voilà, nous, on est focus. Non, ça t'arrive jamais, ça. Ouais, jamais, ok. Et donc, nous, on est focus sur les actes. Et pour nous, la notion de péché, c'est avant tout une notion d'acte. Et quand on se condamne, quand on regarde nos vies, à l'aune de quoi est-ce qu'on la juge? Quels sont les KPI, si jamais on veut faire un peu de business, quels sont les indicateurs qui font qu'on est un bon ou qu'on est un mauvais chrétien? C'est la nature de nos actes qui détermine si notre piété est au niveau et si jamais, eh bien, nous sommes des bons ou des mauvais chrétiens. Et là, c'est boum, mauvaise action. Mauvaise, ça c'est hyper dangereux. Parce que toi comme moi, on n'est pas capable de faire le bien. Toi comme moi, eh bien, on est grave embêté quand il s'agit de faire le bien. Et l'apôtre Paul le dira, est-ce que c'est avant sa conversion ou après sa conversion, le débat n'a pas encore été tranché, mais c'est de dire, je ne suis pas capable de faire le bien que je voudrais faire, et au contraire, je fais le mal que je ne voudrais pas. Et dans notre ADN d'être humain, nous fonctionnons ainsi. Nos actes ont une incidence et peuvent être des indicateurs. Mais on va le voir tout à l'heure, ce n'est pas forcément la racine du péché. La question que nous avons à nous poser et que Dieu nous pose ce matin, c'est où es-tu? Où es-tu par rapport à moi? Louis, tu peux venir. Alors, pour être très franc, j'ai hésité entre les deux personnes qui me semblaient ressembler le plus à Jésus. Dans la salle. J'ai regardé, j'ai jaugé, donc il y a Johan, parce qu'il est sanctifié, parce qu'il vit avec Elodie. Ok ? Mais je me suis dit que Clovis, quand même, était la personne qui pouvait ressembler le plus à Jésus, même s'il a des rouges en maths. Clovis, tu es Jésus, je suis Olivier. Tu es parfait, je suis profondément imparfait. Je suis pécheur. Et puis, un jour... Je prends conscience de mon péché, je prends conscience que j'ai besoin de Jésus, et qu'est-ce qui se passe? On se fait un gros câlin. C'est-à-dire que Jésus et moi... Tu aimes les câlins? D'accord, c'est pas grave. J'aurais dû te poser la question avant. Donc c'est dommage, tu vas avoir plein de câlins ce matin. Et donc, quand on se convertit, on est dans les bras de Jésus. C'est ce que l'apôtre Paul, quand il écrit à Éphèse... J'ai pas mis de déo en plus. J'ai oublié. C'est ce que l'apôtre Paul écrit, si c'est vrai, c'est, en disant aux Éphésiens 120 fois, soyez en Jésus, être en Jésus. Et donc, on est collé à Jésus, on est collé à Jésus, et on est bien comme ça. On est positionné en Jésus. Et puis tout d'un coup, parce qu'on est humain, parce que je suis humain, oh, je mens. Non. Ah, c'est vachement intéressant, tu penses que Jésus il fait ça? Non. Lui, il veut me garder dans ses bras. Mais simplement, parce que j'ai menti, alors il y a une petite distance qui se crée, qui s'appelle la culpabilité. Et parce qu'il y a cette petite distance qui se crée, alors je suis moins influencé par toi. Et donc, après avoir menti, je vais me mettre en colère. La distance s'accroît. Et puis, je vais mal agir pour X ou Y raison. J'ai peut-être volé. Et là, tu vois, je te tiens encore la main. Mais entre toi et moi, il y a plein de culpabilité. Alors, je vais aller à l'église un dimanche matin, et puis, bon, avant de prendre la Sainte-Cène, parce que ça marche aussi bien pour les chrétiens que pour les non-chrétiens, hein, entre nous soit dit, hein, ce truc-là. Au moment de prendre la Sainte-Cène, je vais me repentir, je vais dire, Seigneur Jésus, allez, je crois que tu es mort pour mes péchés, etc. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Clac!
Ouais, t'adores. C'est bien ça. Hein.
Et puis le lundi, je retourne au boulot. Et puis tout d'un coup, j'ai plein de mauvaises pensées qui arrivent par rapport à mon patron. Et puis je lui dis plein de vacheries. Culpabilité. Et on fait l'accordéon pendant un moment. Comme ça. Et puis à un moment donné, nos actes sont tellement... Notre culpabilité est tellement grande. Jésus, lui, reste en place. Mais ça devient de plus en plus compliqué de me repentir. C'est comme si le sang de Jésus avait une date limite de consommation. Parce qu'en nous, c'est hyper compliqué. On se dit, mais Jésus m'a pardonné tellement de fois. Mais là, je suis encore attaché à Jésus. C'est-à-dire que j'ai encore les beaux yeux bleus de Jésus qui sont devant moi et qui me regardent. Jusqu'au jour où Jésus, lui, reste en place. Mais à ce moment-là, je suis comme Adam. Je suis comme Ève. J'ai conscience de ma nudité. Et j'ai la voix de Jésus qui retentit en me disant « Où es-tu ?» Vous comprenez ? Jésus, lui, il est en place. Il me tend la main. Et ça, il le fera jusqu'à mon dernier souffle. Jusqu'au dernier moment. Sur mon lit de mort, il y aura encore les yeux bleus de Jésus qui me regarderont un petit peu comme il regardait Pierre lorsqu'il l'a renié et lorsque les deux regards se sont croisés lorsqu'il sortait du prétoire. Jamais un regard d'accusation. Vous remarquez dans cette phrase « Où es-tu ?» Jésus ne fait pas de reproche en disant « Qu'est-ce que tu as fait, Adam ?» Pas dans un premier temps. Mais il lui demande « Adam, il y a un truc qui s'est passé, il y a une distance entre toi et moi. » Le péché crée cette distance et génère la question de où es-tu. Et pire que ça, la culpabilité. Merci Louis, tu as été top. Tu as été un Jésus super. La culpabilité qui est générée par le péché, tout d'un coup, m'éloigne parce que dans mon ADN, je ne peux pas penser qu'un Dieu peut me pardonner autant de fois. Voyez-vous, l'apôtre Paul lui dira, il dira qu'il y a deux types de tristesse. Il y a la tristesse selon les hommes et il y a la tristesse selon Dieu. La réalité, c'est qu'il n'y a qu'une seule tristesse, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule culpabilité. Que l'on soit chrétien ou que l'on ne soit pas chrétien, à partir du moment où, je prends un exemple, on trompe notre femme, la culpabilité est la même. Mais la manière dont je vais gérer cette culpabilité est différente. C'est-à-dire que la manière dont je vais gérer mon péché, la manière dont je vais gérer mon mensonge, je vais gérer mon vol, est différente que je le fasse avec Dieu ou que je le fasse sans Dieu. Si je le fais sans Dieu, alors quelque part, je m'éloigne, et finalement je termine comme Judas, guidé par une sorte de fausse destinée. Mais à partir du moment où je le fais comme Pierre, et que je prends conscience de ce qui s'est passé, et où mon cœur est déchiré, et où j'accepte de faire ce chemin intérieur qui me mène vers la repentance et qui me mène vers un rendez-vous vers Jésus, alors, il se produit quelque chose. C'est que ma culpabilité sert quelque part à me rapprocher de Jésus. La culpabilité n'est qu'un voyant qui me montre que je suis en danger. Et la culpabilité que tu ressens est en réalité un voyant qui te dit « Eh oh, fais gaffe, t'es en train de t'éloigner de Jésus ». Et la culpabilité que tu ressens est finalement le corollaire de cette question que Jésus te pose. Où es-tu ? Où es-tu ? T'es en train de t'éloigner de moi, t'es en danger en fait. T'es en train de lâcher ma main, t'es en train de tout laisser. Où es-tu ? La culpabilité, ce truc qui est en train de peut-être t'empêcher de dormir, qui t'empêche de venir à l'église, qui t'empêche de prier, qui t'empêche de t'approcher de Dieu. C'est juste cette question, où es-tu ? Ni plus, ni moins. Quelle réponse est-ce que tu feras à cette question ? En fait, la vraie réponse, c'est Dieu qui l'a apporté lui-même. Et on retourne en Éden. Il va faire le premier sacrifice. Il va prendre un animal, le tuer, se transformer en couturier, et faire un habit Chanel sur mesure, en peau de bête. Je ne sais pas si c'est du dinosaure ou du taureau, trop rien. Pour Adam et Ève. Et il a fait un truc de dingue pour toi. Il t'a fait le vêtement de la justice sur mesure. Afin que l'histoire du péché soit réglée. À partir du moment où tu te repens, à partir du moment où tu crois que Jésus, le Fils de Dieu, est mort sur la croix du calvaire, que les clous se sont plantés dans ses mains, que la couronne d'épines a été posée sur sa tête, qu'il a porté tes souffrances, qu'il a porté tes maladies, qu'il a porté tes péchés, alors le problème du péché est réglé dans le ciel. C'est-à-dire que quand Dieu te regarde, et ça c'est un truc de dingue, quand Dieu te regarde, il ne voit plus ton péché, mais il voit le vêtement de la justice que tu portes. Il ne voit plus ta nudité, mais il voit le vêtement Chanel qui a été créé, sur mesure pour toi à la croix du calvaire il y a 21 siècles. Et ça, quel que soit le corps que tu peux avoir, quel que soit le corps que le péché ait pu te faire, quelle que soit ton histoire de vie, quelles que soient tes cicatrices, quelles que soient tes blessures, quelles que soient tes hontes, quel que soit tout ce qui t'empêche de dormir, le vêtement de la justice est suffisant pour te couvrir. Ça a été fait il y a 21 siècles. Maintenant, toi, ton problème, c'est quoi? C'est de gérer cette fichue culpabilité. Et ça, c'est pas simple. Apprendre à s'aimer soi-même, c'est hyper compliqué. Ça prend quelques séances de psy. Ou quelques entretiens pastoraux. Je suis dans une église. Apprendre à se regarder tel que l'on est dans le regard de Jésus. Dans les beaux yeux bleus de Jésus. Apprendre à nous voir comme lui-même il nous voit. C'est pas humain, quoi. Et je crois que c'est vraiment l'une des clés de notre vie chrétienne. Parce que je le redis, notre histoire nous a pétés, nous a cassés, a laissé des cicatrices. Notre éducation, parfois. Des anciennes générations, il n'y en a pas beaucoup parmi nous, à part Luc. D'accord. C'était pas dans leur mindset. Ils travaillaient pour transmettre parce qu'ils savaient que la mort était proche. Mais nous, voilà, on sait que notre vie va être plus longue, du moins en théorie, si le Seigneur ne revient pas. Et donc, on est moins dans le devoir. Et peut-être que ces anciennes générations ne t'ont pas appris à être aimé. Mais c'est dingue, ça. Recevoir de l'amour, pour certains, c'est compliqué, en fait. Parce que ça s'apprend. Ça s'apprend d'être aimé. Et ce matin, Jésus voudrait juste te poser cette question. Où es-tu? Où es-tu en train de te cacher? À cause de ton histoire? Où es-tu en train de te cacher? Petite parenthèse, Adam et Ève se cachaient derrière quoi? Des feuilles de figuier. Vous savez ce que c'est que des feuilles de figuier? Vous ne cachez pas grand-chose. C'est pareil. Derrière les méthodes humaines, pour colmater notre culpabilité, on ne cache pas grand-chose. Et rentre à la maison. Rentre à la maison. Dimanche dernier, j'étais à Saint-Denis et puis il y avait un prédicateur de passage. Et il racontait cette anecdote qui m'a beaucoup plu. C'était un fêtard. quand il était jeune. Et puis un soir, il y avait une super fête qui était organisée, et puis ses parents, ça devait être la génération, c'est des personnes âgées dans l'église, quoi, lui avait dit, si tu veux y aller, tu y vas, mais tu rentres à 9h30. Et 9h30, c'est là que tout commençait, quoi. C'était hors de question. Donc il s'est dit, oh, je vais pas y aller. Donc il commence à mentir à son père, en disant, oh, mais j'y vais pas. Puis il fait semblant d'être malade dans sa chambre. Et puis, il fait le mur. Qui a déjà fait le mur dans cette salle? Ouais. Vous savez ce qui se passait quand je faisais le mur, moi? Je vous la parle. Je rentrais et je voyais mon père et ma mère en train de prier. Donc je passais dans le couloir, ils ne savaient pas que j'avais fait le mur, mais moi je les voyais en train de prier. C'est une image qui m'a marqué, mais qui m'a marqué encore aujourd'hui. C'est incroyable. Je ferme la parenthèse. Et donc, il fait le mur, mais à ce moment-là, il y a son père qui regarde par la fenêtre et qui le voit. Et son père va le suivre en vélo. Et lui, il va commencer à faire la java, prendre ses bouteilles, à monter sur les tables, etc. Et il expliquait, c'était un demi-dieu à ce moment-là, quoi. Tous ses potes lui disent, ouais, il a fait le mur, etc. C'était... Et puis tout d'un coup, l'atmosphère se pose, les bouteilles commencent à voler de partout, et puis il se retourne, et puis là, il voit son père, et là, il va faire comme les autres, il va se mettre à courir de partout. Puis, alors qu'il est en train de courir vers un endroit qu'il ignore, un petit peu comme un canard sans tête, il va se dire, mais qu'est-ce que tu fais, quoi? Tu vas dormir où ce soir? Et donc, il prend la seule décision qui est à peu près bonne à prendre. Il va retourner vers son père. Alors, il retourne la tête basse en disant, ça va barder pour moi. Et puis, il n'était pas fier de ce qu'il avait fait. Mais il choisit quand même de retourner vers son père. Et ça, c'est déjà un acte de courage. Et là, il raconte que quand son père va le voir, la seule chose que son père va dire, allez, viens Ben, on rentre à la maison. Et là, sur le chemin du retour, il n'y a pas de mots échangés. Mais il y a juste un père et un fils qui vont rentrer ensemble à la maison. La vie va recommencer. Où es-tu ? Le péché, c'est avant tout une question de positionnement. Où es-tu par rapport à Dieu? Et là, je boucle. Ça ne veut pas dire que je conclue. Je boucle avec le fait que mes actes dépendent de ma proximité avec Jésus. Vous savez ce que ma femme me dit quand je suis de mauvaise humeur? Ce qui peut arriver un certain nombre de fois. Va prier. Elle a compris une chose. Elle a compris que quand je suis proche de Jésus, alors, mes paroles ne sont pas les mêmes. Mes actes ne sont pas les mêmes. Mes pensées ne sont pas les mêmes. Et que le problème, ce ne sont pas mes actes. Parce que mes actes découlent de ma proximité avec Jésus. Mes actes, par moi-même, je ne peux pas les changer. J'ai rencontré des personnes qui étaient colériques. La proximité avec Jésus leur permettait de développer, j'allais dire, une certaine maîtrise d'eux-mêmes. J'ai rencontré une femme qui était kleptomane. Lorsqu'elle s'est convertie, elle a été délivrée de sa kleptomanie. Et elle a raconté que, et ça m'a marqué, et ça va certainement vous parler, mais quand elle n'était plus proche de Jésus, quand pour X ou Y raison, sa relation avec Jésus n'était plus bonne, alors la tentation revenait. Mais quand elle revenait dans les bras de Jésus, dans les yeux, quand elle regardait les yeux bleus de Jésus, alors, qu'est-ce qui se passait? Sa tentation reculait. C'est exactement ce que dit l'apôtre Paul. Il dit qu'en nous, il y a deux lois. Il y a la loi de la chair et il y a la loi de l'esprit. et que les deux bah, se font la guerre. C'est une petite anecdote que j'aime beaucoup qui dit, un jour c'est un vieil indien qui vient voir le missionnaire et lequel il s'est converti. Puis il lui dit la chose suivante, il lui dit, pasteur, j'ai l'impression qu'en moi il y a toujours deux chiens qui se battent. Et le pasteur, qui était plus intelligent que la plupart des pasteurs, va comprendre quel était le problème, va lui poser une autre question, va dire, mais et c'est lequel qui gagne? Et le vieil indien, de répondre, c'est celui que je nourrirai le mieux. Ma proximité avec Dieu nourrit le bon chien. Nourrit le chien de l'esprit. Vous permettez l'expression? Ok, je la mets entre guillemets. Mais à partir du moment où, à la question « Où es-tu ?», je réponds « Planqué derrière des feuilles de figuier », ça signifie que je suis en train de nourrir le chien de la chair et qu'il va bouffer le chien de l'esprit. Ma proximité avec Dieu détermine les actes. Et pourquoi c'est vachement important de mettre les choses à leur place ? C'est que la religion met l'emphase sur les actes que nous faisons. Et mes actes, je le redis, je ne peux pas les changer. Sinon, c'est de la morale. Ou c'est de la moralisation. Ok ? En revanche, à partir du moment où, effectivement, je prends conscience que certains de mes actes peuvent être répréhensibles, ne peuvent pas être d'équerre, c'est des choses qui... et où je m'approche de Jésus pour régler ces choses-là, il se produit quoi ? Mes actes changent. Et là, je vis Jean 15. Qui connaît Jean 15 dans la salle ? Mon Bobosil. La parabole du cep et du sarment. Mais, ouais, s'il y a du bon, il y a du bon vin dans le coin, je suis en train de le découvrir. Moi, j'aime pas beaucoup le Bordeaux. Je descendais un peu plus bas, je descendais du côté du Pic Saint-Loup, j'aimais bien tout ce qui est Syrah et compagnie. Mais dans le coin, il y a des choses qui sont plutôt pas mal. Je suis en train de le découvrir. Oui, j'aime beaucoup. Je suis un amateur de vin, mais bon, voilà, comme ça vous saurez une bonne chose sur moi. Et donc, mais toujours avec modération. Okay. Et donc, il y a un principe, c'est que, en règle générale, un arbre, un plant, ben, il donne du fruit. C'est un principe de vie, quoi. Un poirier, il donne des poires, sauf quand il est malade, sauf quand il est mal taillé. Une vigne, en règle générale, même si c'est beaucoup plus sioux, ben elle donne du raisin. D'accord. Et de la même manière, un chrétien, quand il est proche de Jésus, il se passe un truc, c'est qu'il porte du fruit de manière naturelle. Hey, tu veux dominer sur le péché ? Tu veux dominer sur ta culpabilité ? Tiens-toi près de Jésus. Colle tes écouteurs dans tes oreilles quand tu as le temps et mets de la louange et connecte-toi à Dieu. Dans ta voiture, allez, essaye de couper les infos, c'est déprimant, ton taux de cortisol est en train de monter, c'est pas bon quoi. Mets de la louange et connecte-toi à Dieu ou alors parle en langue tout en faisant attention. Voilà, quand tu as l'occasion, eh bien, voilà, prends du temps pour sentir ce qui se passe en toi, pour sentir que tu es le temple du Saint-Esprit, que Dieu vit en toi. Et tu verras, de manière automatique, des choses changeront dans ta vie. Parce que tout simplement, quand tu réponds à cette question « Où es-tu ?» et que tu as conscience que tu es proche de Jésus, alors Jésus t'influence et le Saint-Esprit qui vit en toi change et transforme des choses dans ta vie. Ok ? Et je conclurai. Disant que l'apôtre Paul, dans Romains 8, a ce verset qui est extraordinaire. Rien ne vous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est-à-dire que rien n'a le pouvoir, lorsque je suis dans les bras de Clovis, qui symbolise Jésus, rien n'a le pouvoir de me séparer de lui. Ni la mort, ni les puissances d'en haut, ni celles d'en bas, ni la maladie, ni quoi que ce soit, n'a le pouvoir de me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est une évidence. ni ta culpabilité, ni ton péché. C'est-à-dire que, quel que soit ce que tu aies fait, quel que soit le nombre de cultes que tu aies séché, quel que soit le nombre de jours où tu n'es pas ouvert ta Bible, quels que soient les actes les plus ignobles que tu aies pu commettre, rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ si tu retournes te blottir dans les bras de Jésus. Rien. Et ça, c'est un fait. Alors, c'est peut-être le temps. Je pense que l'une des plus grandes maladies de l'Église et des chrétiens en tant que tels, c'est de ne pas répondre à cette question ou de ne pas se la poser. Où est-ce que je suis par rapport à Jésus ? Quand on est en position de péché, il y a la culpabilité qui nous la pose. Vous vous souvenez, la culpabilité te pose la question « Où es-tu ? » Ok, ça marche ? Vous vous en souviendrez maintenant, quand vous vous sentirez coupable ? Où es-tu ? Mais quand on est chrétien, et quand on ne fait pas de bêtises, comme Élodie, qu'elle dit, ouais, mais on a tous des doutes. En réalité, la question, elle se pose aussi. Quid des églises de l'Apocalypse ? Éphèse, Laodicée, par exemple. Où est-ce qu'elles étaient ? Elles étaient en train de faire plein de bonnes œuvres, plein d'actes, mais pour autant, elles étaient éloignées de la relation avec Dieu. De l'origine, de la source. Alors cette question, c'est bien de se la poser. Assez régulièrement. Où suis-je par rapport à Jésus ? Est-ce que je suis plus près aujourd'hui que je ne l'étais hier ? Qu'est-ce qui s'est mis entre lui et moi ? Dans mes actes, dans mon emploi du temps, dans mes priorités, dans mes pensées. Qu'est-ce qui a fait que je me retrouve planqué avec des feuilles de figuier ? On peut juste se poser pendant quelques instants et se poser cette question : où est-ce que je suis par rapport à Jésus ? Juste là. C'est toi avec Dieu, ni plus ni moins. Où es-tu ? Discute avec ton Dieu. Toi, tu peux penser être proche de lui, mais écoute ce qu'il dit de toi. Au contraire, tu peux te penser être loin de lui, mais entends juste sa voix qui dit « Eh oh, c'est bon, je suis en toi là. Je suis là, je suis en toi. » Tu es mon enfant. Seigneur, je te remercie, parce que s'il y avait un mur qui nous séparait, s'il y avait un voile qui nous séparait et qui nous empêchait d'approcher de toi, Jésus, merci parce que tu l'as déchiré. Merci parce que le voile du lieu très saint a été déchiré, merci parce que la proximité d'avec mon Père a été rétablie. Aujourd'hui, je sais que je suis un concitoyen de la cité céleste. Je sais que je suis un ambassadeur, je sais que je suis un fils de Dieu. Je sais que tout ce que le Fils possède, je le possède également. Merci de tout cœur. Je te prie pour que mon quotidien, pour que mon péché, pour que mon histoire ne vienne pas mettre des distances entre toi et moi. Je prie que, pour que, au jour le jour, ta grâce puisse m'éclairer quant aux aux éléments qui peuvent me séparer. Fais de même pour mes frères et sœurs, s'il te plaît. Merci. Merci parce que tu t'occupes d'eux. Merci parce que, en cet instant, Saint-Esprit passe et remet les choses en place. Simplement. Je te remercie parce que je sais qu'il y a des cœurs qui se rapprochent. Je te remercie parce que je sais qu'il y a des barrières qui sautent. Je te bénis parce que je sais, je le vois, qu'il y a de la culpabilité qui s'en va, qui recule. Je te remercie parce que ton amour prend la place. S'il te plaît, que cet amour inconditionnel puisse avancer, prendre de la place dans les cœurs et dans les vies. C'est ton amour qui nous rapproche de toi. C'est se sentir aimé de toi qui nous rapproche de toi. Merci de nous l'avoir prouvé à la croix. Merci de nous l'avoir offert. Saint-Esprit, s'il te plaît, fais ton ministère. Sers-toi de ces quelques paroles pour graver des certitudes. À jamais. S'il te plaît, je te prie pour qu'il y ait juste quelques mots, mais quelques mots divins, et on sait qu'un mot de toi suffit, Jésus. Qui vont changer cette semaine, qui vont changer la vision d'une personne sur la foi, sur la vie chrétienne, qui vont ramener quelqu'un qui était en danger parce qu'il sentait, il ne savait pas qu'il était en train de s'éloigner. Je te remercie de tout cœur pour ce que tu es en train de faire et pour ce que tu vas faire dans le nom de Jésus. Amen.